Chapitre 32. Aurelio. Aurelio avait eu l'intention de reprendre la route après avoir été rafistolé par Franck et pris un peu de sommeil, mais sa tête en avait décidé autrement. Il n'avait ouvert les yeux que près de 16 heures plus tard. La journée touchait à sa fin et il était trop tard pour repartir, ce qui signifiait qu'il avait perdu une journée complète. Le pêcheur qui l'avait hébergé était parti sur le lac. Sa fille et une autre femme, que Diaz pensait être une amie de la famille, étaient en plein dîner quand il sortit de l'arrière-salle du centre de recherche halieutique où il vivait désormais. D'autres personnes occupaient diverses parties du bâtiment, situé sur le petit port de Sandusky. À un pâté de maisons de là, à l'ouest, il y avait également un embarcadère à ferry. Il se souvenait du nom de l'adulte, Jackie, mais pas de celui de la petite. « Vous avez faim ?» lui demanda la première. « Je parie que oui, vu comme vous avez dormi. » Un grand plateau de poissons frits reposait sur la table. Aurelio s'assit et la remercia. En mangeant, il fit le point et se demanda jusqu'où Ike avait pu aller pendant qu'il se remettait. Il avait encore mal à la tête et l'œil gonflé, mais il ne pensait pas souffrir de problèmes cognitifs. S'il était victime d'une commotion, elle était bénigne. Ou alors, il n'en ressentait pas encore tous les symptômes. « Riley devrait bientôt revenir, » dit Jackie. « Moi, il m'a dit, on va aller raccommoder des filets. On sera dehors, juste à côté. Reposez-vous pendant ce temps. » Diaz acquiesça. Il finit son assiette, puis vérifia ses armes et son équipement. Cette femme n'avait pas l'air d'une voleuse, mais prudence était mère de sûreté, et il avait très bien pu perdre quelque chose dans la bagarre sous le pont. Si tel était le cas, mieux valait s'en rendre compte tout de suite, plutôt qu'au moment où il en aurait besoin. Rien n'avait l'air de manquer. Il rangea ses affaires, puis posa son sac ainsi que le G36 près de la porte, mais il garda son arme de poing. Tandis qu'il sortait, l'air frais et vif du lac lui flattant les narines, son ATH s'illumina pour lui indiquer un appel.
« Agent Diaz ?»«
Lieutenant Hendrix, » répondit-il, surpris d'avoir de ses nouvelles. « Votre signal avait disparu pendant un moment, » dit-elle. « L'Isaac a été compromis. Nous ignorons comment, mais nous pensons que l'une des antennes d'amplification a été détruite. Dans l'immédiat, ne vous attendez pas à être connecté à moins de vous trouver dans une zone où la JTF est très présente. Les signaux s'y chevaucheront. Compris. » À Sandusky, il était sans doute à portée des bases de Cleveland et de Détroit, peut-être même de celles de Toledo ou d'Ann Arbor. « Content d'avoir de vos nouvelles, » reprit Aurelio. « Vous risquez de changer d'avis en entendant ce que j'ai à vous dire, » l'avertit le lieutenant. « Je vous la fais courte. Ike Ronson est à la recherche d'une femme du nom d'April Keller. Elle se dirige vers Ann Arbor et était à Cleveland il y a 24 heures. » Aurelio fit le calcul. Si elle voyageait à pied et qu'elle ne se ménageait pas, elle devait être en ce moment même à côté de Sandusky. Mais vu qu'elle n'avait mis que 10 jours pour aller de New York à Cleveland, cela signifiait qu'elle se débrouillait pour trouver de meilleurs moyens de transport. Il devait partir du principe qu'elle avait de l'avance sur lui. « D'accord, » dit-il. « April Keller, donc. Vous avez des infos à son sujet ? Comme la raison pour laquelle elle se rend à Ann Arbor ? » ?»«
Disons qu'on en sait rarement autant sur des civils, » fit Hendrix. « On ignore le pourquoi de sa destination. » Mais voici les renseignements en notre possession. Nous avons intercepté une autre conversation entre Ike Ronson et son contact, que nous avons pu décrypter partiellement. C'est de cette manière que nous avons obtenu son nom et son objectif. À peu près au même moment, nous avons reçu un rapport d'un agent en poste à Cleveland faisant état d'une rencontre avec une civile qui portait l'équipement de la division. D'après sa description, l'identité qu'elle lui a donnée et le fait qu'elle ait indiqué se rendre à Ann Arbor, il nous paraît très probable qu'il s'agisse de la même personne.
« Très probable, » pensa Aurelio. Les agents du renseignement étaient tout simplement incapables de s'avouer certains de quoi que ce soit. Il avait marché jusqu'à la jetée et observé Jackie et la petite qui réparaient des filets, tandis que le soleil de fin de journée décorait le ciel de la baie de Sandusky de teintes dorées et orangées.
« Ça me paraît logique, » répondit-il simplement. «
Mais voilà pourquoi je m'y intéresse en tant que lieutenant de la JTF. J'ai lancé une recherche sur April Keller dans notre système, or il se trouve qu'elle est entrée en contact avec un scientifique du nom de Roger Koopman. lequel a officié en tant que chercheur et consultant pour notre section scientifique. »
Le nom fit tilt. « Koopman ?» répéta Aurelio. « Il a une sorte de planque dans la Dark Zone, je me trompe ?»«
C'est bien ça. »
« Bordel !» lâcha-t-il. « Cette femme, elle est blanche, rousse et porte l'équipement de la SHD, donc. À en croire le rapport de l'agent de Cleveland, oui. Je l'ai vue dans la DZ, 3 ou 4 jours avant que Ronson ne déserte pendant la reprise de l'hôtel de ville, » expliqua Diaz. « C'était certainement à l'occasion de son dernier contact avec Koopman. À l'évidence, c'est leur discussion qu'il a décidé à partir pour le Michigan. »
Hendrix se tut quelques instants, et l'agent entendit des froissements de papier, comme si elle manipulait des dossiers.
Le mari de Keller, un certain Bill, était chercheur en biotechnologie pour le compte d'une société appelée SBGX. Il a été assassiné peu après le Black Friday, peut-être parce que son travail portait en partie sur la synthèse d'un traitement antiviral à large spectre. C'est une information à laquelle Koopman avait accès. De même qu'il était tenu au courant de nos propres recherches visant à mettre au point un vaccin ou un remède contre le virus d'Amherst. Notre équipe, menée par le docteur Jessica Candel, avait réussi à concevoir un traitement potentiel, mais sans parvenir à le synthétiser. Néanmoins, elle a pu transmettre ses modèles à un complexe d'Ann Arbor. Vous commencez à vous représenter le tableau, agent Diaz ?
Oh que oui.
Donc, quelqu'un pense que Keller est au courant pour ce vaccin potentiel, et c'est la raison pour laquelle ce quelqu'un lui a envoyé Ike Ronson.
Selon toute probabilité, oui, confirma Hendrix, avant de marquer une nouvelle pause pour fouiller dans ses papiers.
Nous n'en sommes pas sûrs, mais ces preuves nous paraissent largement suffisantes pour vous suggérer un plan d'action. Même si, bien sûr, la directive 51 vous autorise à agir comme bon vous semble.
Et en quoi consiste ce plan d'action?
Selon nous, quoi que recherche Ronson, et quoi que sache April Keller, il ne doit en aucun cas le communiquer à ses nouveaux supérieurs, fit-elle.
C'est également mon avis, lieutenant Hendrix.
Où êtes-vous en ce moment?
Le système m'indique Sandusky, dans l'Ohio. Sauf que, comme je vous l'ai dit, l'ISAC n'est pas très fiable à longue distance, depuis quelques jours.
Là-dessus, il ne se trompe pas. Je suis bien à Sandusky, mais d'une manière ou d'une autre, je serai à Ann Arbor demain, affirma Diaz.
Savez-vous où se trouve Ike Ronson? Je n'arrive pas à le localiser.
D'après le réseau, sa dernière position connue était Toledo. Malheureusement, impossible de le situer à l'heure actuelle.
Aurelio avait vérifié pendant qu'elle lui répondait et obtenu le même résultat.
Je me suis penché plus avant sur le cryptage de ces transmissions, reprit Hendrix. Il semblerait que votre ex-collègue bénéficie d'une sorte de contre-mesure qui interfère avec l'ISAC.
On parle d'une technologie de pointe, là.
Tout à fait, acquiesça-t-elle. Qui que soient ses supérieurs, ils sont très bien équipés et poursuivent des objectifs différents de ceux de la SHD et de la JTF. Cette mission est bien plus importante qu'on ne le pensait, agent Diaz.
Pour moi, pensa-t-il, elle l'a toujours été.
Compris, lieutenant. Je ferai mieux de me mettre en route.
En effet. Bonne chance, agent.
Aurelio mit fin à la communication et prit un moment pour revenir sur ce qu'il venait d'apprendre. D'abord, il existait peut-être un vaccin contre le poison vert. Cette seule possibilité était déjà incroyable. Ces derniers mois, il avait toujours agi avec la conviction que le virus pouvait très bien muter et relancer l'épidémie. Mais un véritable vaccin dissiperait cette menace. Cela signifierait qu'il serait enfin possible de travailler à la reconstruction des États-Unis. Et cette April Keller, qui qu'elle soit, était peut-être sur le point de le livrer malgré elle à un agent de la division corrompue. Il marcha jusqu'au bout de la jetée. Ann Arbor était à près de 180 km de là, soit 2 longues journées de marche. Il ne pouvait se permettre d'être aussi lent.
« Jackie ? » appela-t-il.
Elle s'arrêta en plein milieu de son nœud. La petite leva les yeux, elle aussi. Aurelio était un peu gêné de ne pas arriver à se rappeler son prénom, mais il avait d'autres sujets de préoccupation plus importants. Il lui indiqua l'embarcadère.
« Ce ferry, où est-il allé ?»«
Avant, il remontait jusqu'à l'île Pelée, du côté canadien du lac, » répondit-elle. « Mais il n'est plus revenu depuis l'hiver, et on ne peut plus aller au Canada. » La frontière est bien gardée, que ce soit sur terre ou sur l'eau.
D'accord, dit Aurelio. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Il doit bien y avoir des gens qui circulent sur le lac, non? Vu que les voitures sont presque toutes inutilisables.
Jackie se leva, s'étira, puis se frotta les mains.
Ouais, bien sûr. Allez jusqu'à Cedar Point. Il y a deux ferries qui font des voyages le long du rivage.
Elle lui indiqua l'autre bout de la baie. Diaz remarqua les tours des montagnes russes et d'autres manèges qui brillaient dans le soleil couchant. Le parc d'attractions était situé sur une île barrière. Il suivit des yeux la bande noire que formait le rivage jusqu'à l'est, où un pont la reliait au reste de la ville, à environ 1,5 km.
« Je sais qu'ils montent jusqu'à Cleveland et Toledo. S'il fait beau, ils pousseront peut-être même jusqu'à Détroit, » ajouta-t-elle.
Aurelio salua Jackie et traversa le pont pour atteindre Cedar Point avant la tombée de la nuit. Découpées dans la lumière du crépuscule, les immenses charpentes d'acier, tordues en pente abrupte et en boucles folles, avaient l'air particulièrement lugubres. Elles rappelaient l'époque où les gens pouvaient encore emmener leurs enfants dans des parcs de ce genre, en toute sécurité et insouciance. Ces jours reviendraient. Il ferait tout pour. Il traversa le parc à la recherche du rivage. Du côté de l'île qui donnait sur le lac, une vaste plage vide était parsemée de quelques bateaux échoués. Il ne lui serait d'aucune utilité. Face à la baie, en revanche, il tomba sur un grand port. Des dizaines d'embarcations avaient coulé sur leur lieu d'amarrage du fait des tempêtes hivernales. En revanche, au bout des quais les plus longs, flottaient encore de grands bateaux. Aurelio passa devant un hangar et un restaurant dont s'échappait une odeur de poisson frit. À l'intérieur, un groupe mangeait en discutant. Il vit d'autres silhouettes sur des ponts et décida de commencer par là. Ces gens-là pourraient sûrement le renseigner.
« Bonjour !»
lança-t-il lorsqu'il approcha du bout du quai. Il y avait trois bateaux attachés de la proue à la poupe et tournés vers la gauche, où entre deux brise-lames filait un canal menant dans la baie. Au bord de l'un d'eux, un matelot arrêta d'enrouler ses cordes. Âgé d'une trentaine d'années, il ne portait qu'un short en toile. Ses cheveux couleur sable descendaient en bouclant sur ses épaules tannées par le soleil, et il avait les bras couverts de tatouages. Il s'appuya sur le plat-bord.
« Je peux vous aider ?»« On m'a dit qu'il y avait des ferries ici, » répondit Aurelio. « Il faut que j'aille dans le Michigan le plus vite possible, c'est capital. Vous savez à qui je dois m'adresser ?»«
Personne ne vous emmènera cette nuit, » le prévint le marin. « Mais je pars pour Toledo demain, si ça vous va. »«
Je dois me rendre à Ann Arbor. » »« Pardonnez l'effet mélodramatique, mais c'est une question de vie ou de mort. » »«
J'en ai déjà vu des comme vous, » fit-il. « J'avais bien compris que c'était important. » « Écoutez, je dois me rendre à Toledo demain, mais ce bateau appartient à une femme qui s'appelle Brin. Vous la trouverez à l'intérieur. Si vous avez un truc qui l'intéresse, elle vous emmènera à Détroit dans la seconde. »«
Brin, » répéta Diaz.
« Compris, merci. »«
Bon courage !» lança le matelot avant de retourner à ses cordes.
Aurelio, lui, entra dans le restaurant. Il n'y avait que quatre femmes dans le groupe réunies autour d'une grande table jonchée de bouteilles de whisky et d'assiettes, désormais pleines d'arêtes. Tout le monde se retourna à son arrivée. Ils remarquèrent son arme et son équipement, puis se turent.
« Je cherche Brin, » annonça-t-il.
Une femme trapue aux cheveux gris en brosse s'arrêta de boire son verre et fit.
« Vous l'avez trouvé ?»«
Je peux vous parler une minute ?» demanda Aurelio.
Elle vida son verre cul sec et s'en servit un autre.
« Pas de problème, » lâcha-t-elle.
Brin voulait l'aider, mais elle avait aussi ses propres problèmes. Alors, pour éviter une longue négociation, Aurelio lui fit une offre qu'elle ne pouvait pas refuser.
« Si vous m'emmenez à Détroit dans la matinée, » dit-il, « je vous donnerai ça. »
De son sac, il sortit un Glock 19, sans aller trop vite, pour bien lui montrer qu'il le tenait par le canon. Il en éjecta le chargeur, puis la balle restait dans la chambre.
« Il est presque neuf, » précisa-t-il. « Je le gardais au cas où. Mais il est à vous, avec deux chargeurs pleins, si on peut partir avant le lever du jour. »
« Marché conclu. »
Le lendemain matin, tandis que les premières lueurs de l'aube se montraient à l'est, Brin levait l'ancre avec Diaz en poupe. Son bateau devait faire un peu plus de 10 mètres de long. Tout en bois, il était aussi vieux qu'il était beau. Et son moteur avait été modifié pour fonctionner au charbon.
« Je ne sais pas si vous avez vu le terminal charbonnier dans le port, » dit-elle. « Quand l'épidémie nous a frappés, La ville s'est arrêtée, et il y avait des montagnes de charbon qui ne servaient plus à rien. Avec quelques amis, on a passé une partie de l'hiver à travailler sur le lièvre de Mars. Maintenant, je peux bosser, tant qu'il reste du combustible.
Avec de la chance, la situation s'améliorera avant que vos réserves ne s'épuisent, répondit Aurelio, en se demandant pourquoi elle avait donné ce nom à son bateau.
J'ai pas l'impression que ça en prenne le chemin.
De la fumée noire s'élevait des cheminées de fortune plantées en poupe, aussi l'agent s'en éloigna-t-il. Une fois sur le lac, Brin accéléra.
« On sera à Détroit dans 6 heures, à moins que le temps ne se gâte, »
annonça-t-elle. Ce qui signifiait qu'ils arriveraient vers 11 heures. Puis il lui resterait 80 kilomètres à parcourir pour atteindre Ann Arbor. Ce programme ne lui plaisait guère, mais il n'avait aucun moyen de faire autrement. Restait donc à espérer qu'April Kelleher se déplaçait à pied et qu'Ike Cronson ne l'avait pas déjà trouvé. Les dernières informations de l'ISAC indiquaient qu'il avait été localisé pour la dernière fois au sud du Michigan, entre Toledo et Ann Arbor. Aurelio se demanda brièvement ce qui était arrivé au système. Quelque chose clochait. Cela ne faisait aucun doute. Le suivi en temps réel ne fonctionnait plus, tout comme l'ATH de combat. Au moins, il lui restait l'assistance de navigation et l'accès aux bases de données statiques. Brin mit directement cap sur le nord-ouest et le rivage ne tarda pas à disparaître. Le lac était un peu agité, mais rien d'insupportable, et les brises du matin se calmaient à mesure que le soleil grimpait dans le ciel. C'était une belle journée pour faire du bateau, se dit Diaz. Il aurait aimé pouvoir en profiter. Mais la pression de sa mission et, en fond, l'envie pressante de retourner à Washington pour retrouver Ivan et Amelia l'empêchait de penser à quoi que ce soit d'autre. Brin ne s'arrêtait pas de parler. Ses sujets de conversation allaient des poissons aux problèmes politiques de Sandusky, en passant par des théories conspirationnistes au sujet de convois militaires dont elle avait entendu parler et qui passaient par l'Ohio pour rejoindre l'est du pays. Cela éveilla la curiosité d'Aurelio, mais elle n'avait aucun détail à lui fournir.
C'est juste un truc dont on me parle régulièrement. Sûrement des collègues à vous ?
C'est possible, pensa-t-il. Il abandonna et regarda le lac. Environ 3 heures plus tard, le Michigan commença à se dessiner au loin.
On avance bien, se félicita Brin. Il nous faudra peut-être 5 heures au lieu de 6.
C'était déjà mieux. Mais il n'arriverait pas à Ann Arbor avant minuit. Et ce, après 80 kilomètres de marche forcée, qui allait l'épuiser. Ce qui n'était pas idéal pour se lancer dans un affrontement avec un autre agent de la division parfaitement entraîné, si telle était la tournure que prendraient les événements. Alors qu'il s'approchait du rivage, il repéra l'embouchure de la rivière Détroit, encadrée par un terrain de golf et une grande étendue marécageuse. Brin vira au nord, vers l'estuaire.
« On va perdre de la vitesse à cause du courant !»
le prévint-elle, tandis que le bateau se mettait à ronronner. Aurelio remarqua alors un embarcadère près du parcours.
« Brin, » fit-il, « vous pouvez me déposer là-bas ?»«
Ça dépend de l'eau, » répondit-elle. « Ça m'étonnerait qu'on ait dragué le canal récemment. Mieux vaut remonter jusqu'à Détroit. »
Diaz consulta une carte de la région générée par sa montre. S'il descendait ici, il n'était qu'à 60 kilomètres de son objectif. Il ferait ainsi l'économie d'une heure de navigation et de 2 ou 3 heures de marche.
« Je vous en prie, essayez, » dit-il. « Des tas de vies dépendent de ma capacité à arriver au plus vite à Ann Arbor. »
Malgré son air dubitatif, elle se rapprocha de la côte.
« Non, désolé, » renonça-t-elle. « Je peux pas risquer de m'échouer. »
Après avoir de nouveau viré au nord, ils passèrent devant un petit groupe de chevaux qui broutaient le long de la rivière. Aurelio remarqua alors un port.
« Hé, là !» s'exclama-t-il. « Il y a un canal !»
Brin ralentit.
« C'est pas très large, mais d'accord. Je vais m'approcher tout doucement de l'embouchure. En revanche, j'irai pas plus loin. On n'a aucun moyen de savoir si d'autres bateaux n'ont pas déjà coulé. Et si c'est le cas, on s'en rendra compte trop tard. »«
Ça me va, » acquiesça l'agent. « Du moment que je peux sauter. »
Elle décéléra au maximum pour s'avancer au plus près de l'entrée du canal, où une aire de pique-nique faisait face à une forêt particulièrement fournie. Enfin, son moteur rugissant, le bateau sortit pour quelques instants du courant qui dévalait la rivière Détroit. Dès que l'embarcation fut assez proche du rivage, Aurelio sauta. Le gravier crissa sous ses bottes.
puis il se tourna vers Breen.
« Merci infiniment, » dit-il. « Vous remontez vers Détroit, donc ?»«
Maintenant que je suis là, autant voir si je peux rentabiliser le voyage. Et puis, il reste du charbon dans certains terrils de Rivière Rouge. Faites attention à vous, agent Diaz.
Vous aussi, Breen. »
Elle sortit de l'embouchure en marche arrière, puis vira au nord pour remonter la rivière en faisant vrombir son moteur. Il était un peu moins de 9 heures, et Aurelio était encore à 60 kilomètres d'Ann Arbor.